Radio Quart d'heure Paris, bonsoir, il est encore quart d'heure. Je vous rappelle l'information principale de cette soirée, c'est-à-dire le spectaculaire retour de la dalle Vitruve à Saint-Blaise après sa descente brutale vendredi soir dans le ciel de Paris. À 18h hier, le monolithe semblait s'être finalement bien amarré et sans encombre à l'embarcadère des Balkans, mais cependant projetant des colonnes de fumée de plusieurs milliers de mètres plus hautes que les tours Saint-Blaise et des nuages de poussière visibles bien au-delà des portes de Montreuil et de Bagnolet. Nous attendions une déclaration de Juliette Vitruve et du préfet. Je ne sais pas où on est notre reporter sur le terrain, Charles-Henri Despeignes. Vous nous parliez d'un problème, je crois, avec les faucons tout à l'heure. Mais je ne sais où vous en êtes, donc oui. Si vous me recevez... Oui, dites-moi, vous m'entendez ? Charles-Henri,
oui,
m'entendez ?
Je vous entends. Alors, j'ai essayé de trouver Juliette Vitruve,
oui.
Ou encore de croiser le préfet. Le préfet, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, il y a plein de fumée, on respire très très mal.
Oui, c'est l'émotion, on comprend bien.
Voilà, mais je suis tombé dans le garage avec le pompier, le chef des pompiers, Roméo. Alors je vais vous le passer tout de suite, Jean-Michel.
Oui.
Jean-Charles, pardon.
Oui.
Oui, allô.
Oui. Oui, je vous écoute, oui.
Oui, allô, c'est Roméo, chef des pompiers, là. Oui. Vous m'entendez ?
Oui, oui, je vous entends très bien, je vous en prie, les auditeurs aussi.
Oui, continuez. D'accord. Donc, nous sommes dans les garages, au quatrième sous-sol. C'est une zone très dangereuse, nous avons tout fermé, car effectivement, ce sont des souterrains grignotés, des enfilades de galeries qui portent la marque du travail acharné des cardeuses. Juste à côté des douves, c'est un dédale de galeries, c'est très, très dangereux, je ne vous conseille pas d'y aller. D'ailleurs, je suis là avec la caserne. Nous sommes tous présents et nous avons bouclé la zone. Donc voilà, je vous rends l'antenne, je vous repasse Charles-Henri Despeignes. Merci bien.
Très bien, merci à vous. Nous sommes rassurés de savoir que le périmètre est sécurisé. Oui, Charles-Henri ?
Non, voilà, tout va bien. On cherche Juliette.
Très bien, très bien. Eh bien, nous reprendrons contact tout à l'heure. Continuez à enquêter, je vous remercie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Circulez.
Qui est responsable de ce désastre, de cette catastrophe ? Peut-être Blaise de la Tour, tout simplement, à l'origine de ce projet urbain, avant le projet des 50 tours, dont nous parlions tout à l'heure, devenu 10, puis 2. Qu'est-ce que Blaise de la Tour a eu dans la tête et qu'était la situation avant son projet ?
Mais on croit souvent que le quartier Saint-Blaise doit son nom à la rue éponyme et qui découlerait donc de Blaise de la Tour, propriétaire du pavillon de l'Ermitage et bâtisseur des cités Quart d'heure et Vitruve. Mais en fait, il s'agit d'une homonymie, puisqu'à Saint-Blaise, avant les immeubles, il y avait un domaine, le domaine de Bagnolet.
Blaise de la Tour hérite sa fortune du commerce de la laine, achète le domaine de Bagnolet, étend son activité et devint en quelque sorte le patron des quarts d'heure de laine, avant de bâtir les tours Airpost et les logements de ses ouvriers. Au coteau de vignes, au flanc du domaine, succède le tracé primitif des rues organisé autour de l'activité de l'époque, les entrepôts, le vin, les différentes activités. Rime et Rivière, nous sommes aujourd'hui au pavillon de l'Ermitage, qui fut donc la propriété de Blaise de la Tour. Et qui vivait là avant ? Qu'était le domaine de Bagnolet ?
Eh bien, il faut remonter à la période de Louis XIV. Louis XIV avait eu des filles, et l'une des filles s'était mariée avec le régent de France, Philippe d'Orléans. Donc pendant quelques temps, elle a été la première dame de France. Malheureusement, elle avait une belle-mère avec laquelle elle ne se s'entendait pas du tout, la princesse Palatine, et elle a fait tout pour s'éloigner des frasques de son mari, il faut bien l'avouer, et de la mauvaise humeur de sa belle-mère. Ce qui fait qu'elle a acheté en 1719 le château de Bagnolet. Elle ne voulait un lieu qui ne fût qu'à elle, et elle y est restée tous les étés pendant 30 ans.
Elle y vivait dans ce bâtiment ? Ça n'a pas l'air chauffé, enfin sommairement. Comment, il y avait les commodités, on pouvait y vivre ?
Alors, la duchesse d'Orléans, évidemment, habitait dans le château. Alors, le château n'existe plus. Il a été détruit. Les derniers éléments ont été détruits un peu après la Révolution, enfin, au début du 19e siècle. Vous seriez venu à ce moment-là, il y avait un parc de 80 hectares. Le château, s'il existait encore, serait juste après le périphérique, au niveau de la porte de Bagnolet. Et au bout du jardin, à l'endroit le plus éloigné du château, à peu près 1 km du château, il y avait cet endroit, là où nous sommes, cette petite folie qu'on appelle l'ermitage, un bâtiment fait pour les plaisirs, un bâtiment dans lequel on venait, alors évidemment, en été, c'est pas chauffé, ça ne l'était pas à l'époque, où on venait bien pique-niquer, jouer aux cartes, s'amuser, voire plus si affinité. D'ailleurs, une grande partie de la littérature libertine du 18e se passe dans ces folies. Folie, ça vient de folium, le feuillage, c'est-à-dire qu'on est bien à l'abri sous les frondaisons. Et d'ailleurs, la première citation de l'Ermitage en 1727, c'est « Ermitage et marronnier ». C'est-à-dire que les marronniers ont tout autant d'importance que le bâtiment lui-même. Alors donc, on n'y met jamais les pieds, sinon une fois de temps en temps quand il fait très chaud au mois d'août. Et on vient prendre plaisir, hein, ce sont des bâtiments, les folies faits pour les plaisirs, c'est pas fait pour l'habitation. Alors on vient profiter en particulier de la décoration dont il reste certains éléments en place encore aujourd'hui.
On s'effeuille, on peint. Alors effectivement, on voit des très belles...
On a des peintures murales exceptionnelles. Il nous reste 3 grisailles d'origine. On est entre 1725-27. Ces grisailles représentent des ermites, parce que la religion n'est jamais très loin chez ces grands seigneurs, mais des ermites plutôt agréables. C'est de la peinture décorative, hein. Imaginez que la totalité de l'ermitage était peint en grisaille, et même entre les niches, vous aviez encore de la décoration en grisaille. Donc c'est très typé. Et c'est resté comme ça pendant bien des années, sachant que quelques années après, le petit-fils de la duchesse d'Orléans, qui avait hérité du domaine, lui, alors on est dans les années 1760, va y installer sa maîtresse. À peu près dans les mêmes conditions, hein. Elle y vient en été, c'est son boudoir. Elle s'appelait Étiennette Marquis, dite Marquise. C'était une danseuse au théâtre du Palais Royal. Lui, il était propriétaire du Palais Royal. Donc il n'a pas eu à aller chercher très loin, le duc d'Orléans, pour trouver sa maîtresse. Et tous les étés, pendant une dizaine d'années, ils sont venus ici pour s'amuser, pour jouer, pour faire du théâtre. Ils aimaient tous les deux faire du théâtre. Et à un moment, le duc d'Orléans a offert à Étiennette l'ermitage qu'il a remis au goût du jour, ce qu'on appelle le goût, à l'époque on l'appelle le goût à la grecque, c'est-à-dire le début du néoclassicisme. Et vous avez sur la rue de Bagnolet un salon qu'on appelle le salon de Flore, qui est un des deux seuls exemples parisiens de salon dans le goût à la grecque, le deuxième étant à la Folie Saint-James à Neuilly. Donc deux peintures exceptionnelles qui manifestent véritablement de la peinture d'agrément et de l'agrément qu'on trouvait dans ces folies du XVIIIe siècle.
Ensuite, les occupants changent et l'utilisation du pavillon aussi, son organisation spatiale un petit peu évolue.
Oui, la famille d'Orléans va vendre le domaine pour différentes raisons. Le château est en mauvais état, semble-t-il. Et c'est une opération immobilière. L'ermitage va être vendu avec 4 hectares de terrain et acheté par un noble qui s'appelle Mérel de Joigny et qui veut en faire sa maison d'habitation. Alors, auparavant, ce qu'on souhaitait, c'est avoir frais en été. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir chaud en hiver. Sauf que dans ce rez-de-chaussée de 5 mètres sous plafond avec ses grandes baies, c'est impossible. Il fait froid. De toute façon, quoi qu'on fasse, il fait froid. Donc c'est pour ça qu'il y a eu création un peu avant la Révolution, donc, d'un étage avec 2,50 mètres sous plafond, hein, donc c'était beaucoup plus facile à chauffer. Et depuis ce temps-là, pendant à peu près 200 ans, ça a été une maison d'habitation où effectivement les propriétaires se sont succédés. On a ce monsieur Mérel de Joigny, on va avoir à un moment le célèbre, un peu cryptique, mais enfin baron de Batz, qui cherchait à faire évader le roi, la reine. Alors, inutile de dire que ça n'a pas marché, mais il s'est passé des choses ici, des centres de police où tous les amis du baron de Batz ont été pris et guillotinés, tandis que lui a réussi à s'enfuir et il passera la Révolution tranquillement, à la différence de ses amis.
Donc il a échappé au gibet de Saint-Blaise.
Il a échappé au gibet de Saint-Blaise, mais en revanche, tous ses camarades et sa maîtresse n'ont pas échappé à la guillotine de la place de la Nation.
D'accord.
Alors le baron de Batz est parti tout de même vite, en courant, si l'on peut dire. Et en 1820, il y a un nouveau propriétaire qui n'est pas noble cette fois-ci, mais il aimait bien la noblesse. Il était confiseur de son Altesse royale, la duchesse de Berry. Il s'appelle François Pommerel. Et il aime tellement l'aristocratie qu'il va tout faire pour entretenir très bien la décoration quasiment royale de l'ermitage. Ce qui fait que quand sa famille vendra l'ermitage à l'assistance publique à la fin du 19e siècle, il en était dans l'état de 1761. Et l'assistance publique, évidemment, qui a fait construire à côté l'hospice Alquier de Brousse, a continué à entretenir l'ermitage, qui pendant bien des années a été l'appartement de fonction du directeur de l'hospice. Tout ça nous menant dans les années 1975-80, date à laquelle l'ermitage s'est vu un petit peu mis à l'écart, plus personne n'habitait dedans, il y a eu une restauration, mais l'étage n'a pas été restauré. Lui, ce qui fait que notre association, qui est arrivée dans les années 2000 et a fait une proposition d'ouverture au public de l'Ermitage, qui a été acceptée par l'actuel propriétaire, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, dans les conditions que l'on connaît, c'est-à-dire une ouverture au public du jeudi au dimanche, de 13h30, de 14h à 17h30, ceci à partir du mois de mars, parce qu'il fait un peu frais en janvier-février. On y voit une exposition permanente qui explique l'histoire du lieu, et systématiquement une exposition temporaire sur des thèmes variés.
D'accord, merci beaucoup, Rivière.
Bien, merci, et j'espère voir pas mal de monde pour visiter ce petit lieu charmant.
Blaise me demanda de construire un poste, une centrale de messagerie dressée vers le ciel. C'était fascinant. J'acceptais.
Airpost. Airpost, c'est l'invention d'un domaine fondé sur la colombophilie, accueilli au château de Bagnolet, ou plutôt au pavillon de l'Ermitage, dans ce qui reste du château de Bagnolet. Et Blaise de la Tour, qui était un amateur de colombophilie, avait bien compris le parti qu'il pouvait tirer des pigeons voyageurs. Il commença le travail avec des dizaines de pigeons voyageurs. Il fit un test. Il eut l'idée prodigieuse de les rendre porteurs d'informations, ces pigeons voyageurs. Alors comment marchent les pigeons voyageurs ? Eh bien, ils grandissent dans un territoire et ils s'y attachent pour différentes raisons. Et quand on les libère, ces pigeons veulent... Quand on les libère, bien sûr, loin de chez eux, ils veulent regagner leur domicile. Et c'est cette subtilité que Blaise de la Tour utilise pour mettre en place un réseau de pigeons voyageurs, voilà, qui lui ramène de l'information.
Blaise de la Tour hérite sa fortune du commerce de la laine, achète le domaine de Bagnolet, étend son activité et devint en quelque sorte le patron des quarts d'heure. Des quarts d'heure de laine, avant de bâtir les tours Airpost et les logements de ses ouvriers. Au coteau de vignes, au flanc du domaine, succède le tracé primitif des rues, organisé autour de l'activité de l'époque, les entrepôts, le vin.
À l'âge de 5 ans, je me trouvais avec mon grand-père à la frontière belge, mes grands-parents étaient frontaliers, et j'allais voir des cousins en Belgique, qui avait des pigeons, et c'était des grandes discussions entre personnages adultes et puis moi qui assistais ça, et en flamand, et en ch'timi, et en français. C'était assez cocasse, quoi. commencé à avoir des pigeons et puis ça a mijoté pendant 2-3 ans. Puis à un moment, j'ai dit, écoute, j'aurais bien avoir des pigeons. Avec ma femme, j'en ai causé et puis j'ai eu des pigeons voyageurs et depuis, j'ai des pigeons voyageurs.
Et au début, ils étaient où? Ils étaient en dehors de la maison au début?
Ah ben, j'avais un colombier en dehors de la maison. Où il y avait des problèmes avec les chats, avec les fouines, avec tout. C'était assez ennuyé. Que là, je prends les colombiers au grenier. Voilà, ce seul truc que je donne aux pigeons, c'est de désinfecter l'eau de boisson pour faire les salmonelles. Il y a un problème. Alors je mets 5 gouttes de teinturia d'olite. Et c'est une méthode que grand-père utilisait. Et je t'assure que ça marche. Hein. Je l'ai dit à plusieurs, hein. Ils ont été tranquilles. Tu vois, de la teinture d'iode.
Alors c'est des graines, c'est un mélange de graines.
Des graines, oui, c'est un mélange. Comment je me mets pour pas te gêner?
Non, tout, très bien, très bien.
Tu rentres dans le colombier, hein?
Oui, oui.
Les autres vont venir parce que t'es là. Il y en a 19-38.
19 et 38.
Oui. Il y a 19 mâles et 19 femelles. 38.
Les gros, c'est des mâles ou c'est des femelles? Il n'y a pas de...
Tiens, tu vois, t'as un mâle en haut, là.
Ah oui, ils sont un peu plus gros.
Là, c'est un mâle qui est celui qui garde son casier pendant que la femelle est en train de manger.
D'accord. Et ils se mettent en couple dans les casiers?
Hein?
Ils sont en couple dans les casiers?
Ils sont en couple dans les casiers. Automatiquement, ils sont en couple, il y a mâles et femelles.
D'accord.
Et ils ont chacun leur casier, ils se trompent rarement.
D'accord.
Tu vois, en haut, t'as un couple, là. Ah ben, il y en a trois, tiens. Ben, il y a les cahiers sur le truc, là, qui est devant ce que tu fais là, qui est là, qui est pas chez Z, là.
Ah oui.
Voilà.
Ils mangent combien de fois par jour?
Allez.
Voilà. Il mange
le vrai coup.
Il mange combien de fois par jour?
2 fois par jour.
D'accord. Puis là, de toute façon, ils volent plus là. Tu les lâches pas.
Comment ?
Tu les lâches la journée ?
Bah, je les lâche le matin, je lâche tous les matins, et bientôt, quand les jours vont allonger, ils vont être lâchés le soir.
D'accord.
Mais là, ils viennent d'être accouplés, ils sont en accouplement, et j'ai pas intérêt à trop les lâcher.
Bon, ben bah, ils sont bien, là. Il fait pas très chaud, hein. Il résiste au froid ?
Il y a 10 seulement.
Ouais, et il résiste au froid jusqu'à combien ?
Ah oui, non, mais là au Colombier, il fait pas moins de combien de 5 ou 6 quand il fait très froid.
D'accord. Hein ? Et en dessous de zéro, il faut que tu chauffes
bah,
peut-être,
en dessous de zéro, il y a intérêt, ça dépend. S'ils vivent comme ça, ils résistent facilement, il n'y a pas aucun problème. Mais s'ils ont des jeunes, il faut amener un petit peu de chauffage.
Ah oui, c'est ça. Et t'en as eu jusqu'à combien, ici, des pigeons ?
Comment ?
Parce que là, t'en as...
Oh bah là, j'en ai 19, j'en ai 38, il y en a un 39. Et j'en ai 4 autres, j'en ai 43 en tout.
43. Et t'en as eu jusqu'à combien, ici, dans la maison ?
Oh, dans la maison, le colombier est fait autrement. J'en ai eu jusqu'à 200. Hein.
Jusqu'à 200.
Avec les colombiers du haut. Hein.
Et t'as combien de colombiers, en fait ? T'en as un, deux au-dessus ?
Il y en a deux, trois, quatre, mais il y en a que trois qui me servent.
D'accord. Et à chaque fois, tu les sépares pour les accouplements enfin,
d'accord. Ouais. Bah, pour les accouplements, il y a un système que tu connais.
Ouais, bah oui.
Alors quand je découpe les femelles, il y en a une là, faut que je fasse attention.
Oui.
Les femelles sont mises ici.
Oui.
Et au moment de les mettre en loge, les femelles sont là, c'est fermé. Mm-hmm. Au moment de les mettre en loge, le samedi matin ou le vendredi soir, j'ouvre la porte, hein, et les femelles vont, et je choisis celles que je veux mettre au casier et les mâles que je veux mettre au concours.
D'accord. C'est toi qui choisis, c'est pas...
Ah non, je choisis, selon la forme du pigeon, selon la distance qu'il a à concourir.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, c'est un problème parce qu'il y a des pigeons qui sont bons pour la vitesse, il y a des pigeons qui sont bons pour le demi-fond, uh-huh. C'est jusqu'à 500 km, et il y a des pigeons qui sont bons au-delà.
D'accord. Et toi, tu fais souvent des courses de longue distance, non ? Plutôt...
Voilà, c'est-à-dire à une époque, j'aimais bien les concours sur toutes les distances, mais je dois avouer que ma concours sur distance, c'était le demi-fond, à 500 km.
D'accord. C'est le choix des dates d'accouplement. Mais c'est choisi d'après quoi ?
Bah, y a une date de départ. Je les ai accouplés le samedi, date d'accouplement. Oh, c'est le jeudi 7. Mais attends, je peux faire une photocopie.
7 janvier 2016.
Voilà, je les ai accouplés à cette date-là.
D'accord. Nombre de jours jusqu'à la ponte, 10.
Non, ça c'est... 10 jours. Jusqu'à la pompe, 10 jours.
10 jours. Donc le dimanche 17-01, il y a un œuf. Premier œuf.
Couvaison, ouais.
Après, le mardi 19, couvaison, deuxième œuf.
Ouais.
Le vendredi 29, couvaison sous 10 jours. Le vendredi 5 février, tu vas les piquer.
Oui, c'est-à-dire les œufs qui sont bêchés, les jeunes qui commencent à ouvrir la coquille.
D'accord. Ah oui, d'accord, c'est le piqué de l'œuf.
Ouais, okay. Ouais.
Le samedi 6 février, c'est la date d'éclosion. Le samedi 13, c'est les jeunes de 7 jours. Le ouais. Samedi 20, le samedi 27. Et ben moi, je reviendrai pour les jeunes de 7 jours.
Ah, tu reviens pour les jeunes de 7 jours, mais téléphone-moi avant, parce que selon la température extérieure,
d'accord.
Il peut y avoir un jour de retard ou un jour d'avance. Hein,
bien sûr.
Le 6-2. Faut que tu reviennes le 6 ou le 7. Le 6 ou le 7 février.
Hein ? D'accord, ça sera les jeunes de 7 jours.
Voilà, ça sera des jeunes à l'éclosion. Tu auras les œufs qui sont...
Oui ? Je peux le poser, je peux pas le prendre.
Ah oui. Ça sera les jeunes, tu auras peut-être l'occasion de voir des jeunes éclore de l'œuf ouvert.
Jean-Michel Michaud, vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes président de l'ISTAV, l'Institut scientifique et technique de l'animal en ville. Alors pour vous, un pigeon, c'est quoi ?
Mais écoutez, un pigeon, c'est un animal qui, comme beaucoup d'autres, trouve que la ville est un milieu qui est sympathique et qui a envie de vivre.
Et quelles sont les différentes espèces de pigeons ?
Si vous voulez, il faut être clair, il y a une espèce qui prédomine en ville, qui est le pigeon biset. Vous avez à la campagne une autre espèce de pigeon, qui est le pigeon ranier, qui vient beaucoup moins en ville que le pigeon biset. C'est deux espèces différentes.
Alors vous le disiez, il y en a qui préfèrent la campagne, d'autres la ville. Et pourquoi la ville pour certains pigeons ?
Écoutez, le pigeon biset est un oiseau qui nidifie dans la pierre. Et globalement, on trouve plus facilement de la pierre en ville qu'à la campagne.
Alors, chlamydiose, salmonellose, est-ce que le pigeon est un danger pour l'homme ?
Bon, vous savez, il y a une multitude de dangers pour l'homme. Et il est clair que si vous hébergez chez vous un pigeon malade et que celui-ci a la chlamydiose et qu'il expire chez vous toutes les chlamydia qu'il a, vous risquez d'attraper la chlamydiose. C'est sûr que si vous voulez manger un pigeon que vous avez attrapé dans la rue et que vous ne faites pas assez cuire, vous pouvez avoir une toxi-infection. Mais globalement, vivre comme ça tous les jours avec les pigeons n'entraîne pas problèmes majeurs.
Alors les pigeons, y a beaucoup de nuisances qui sont liées, il y a les fientes, les nids, le bruit. Comment on s'en débarrasse du pigeon ?
Le fait est, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, il s'agit de maîtriser les populations. On sait aujourd'hui très bien pourquoi les pigeons sont à un endroit et pas à un autre. Il y a trois raisons pour lesquelles un pigeon peut venir à un endroit, soit parce qu'il y trouve de la nourriture, soit parce qu'il trouve un lieu pour s'héberger, soit il trouve un lieu pour s'abriter. Lorsqu'on donne une grande quantité de nourriture, eh bien, il y aura de nombreux pigeons. Lorsqu'il y a un peu de nourriture, il y aura un ou deux pigeons. Même chose sur les lieux de reproduction, même raison sur les abris. Et donc, ce qu'il faut faire, si on veut diminuer et limiter les populations de pigeons, c'est d'abord agir sur la reproduction en limitant les lieux de reproduction. Et on peut agir là-dessus de façon assez facile, parce que les pigeons vont souvent dormir à l'intérieur des bâtiments par des petites voies d'entrée, et il suffit d'obturer ces petites voies d'entrée pour limiter les populations de pigeons.
Alors le pigeon, comme vous le dites, on essaye de le contrôler, pourtant c'est un animal, donc normalement il devrait être libre. Alors est-ce qu'un jour il pourrait porter plainte contre les humains, le pigeon ? Est-ce qu'il a un statut juridique particulier ?
Ah non, le pigeon il est vraiment, d'après le juridique, en bas de toutes les chaînes juridiques, puisqu'il est considéré comme un rex nullius. Depuis peu de temps, il est considéré quand même comme un être sensible, et donc on n'a pas le droit de lui faire des actes de cruauté, mais sinon, vraiment, il n'a pas le droit à la parole.
Et vous, Jean-Michel ?
D'ailleurs, il faut être clair, un pigeon, ça ne parle pas beaucoup, ça en coule un peu, mais ce n'est pas un bavard.
Et vous, Jean-Michel Michaud, est-ce qu'il vous arrive souvent de parler à des pigeons ?
Non, je ne parle pas aux pigeons, non. Je les regarde, je les vois vivre, je les surveille, je vois leur mode de vie, mais leur parler, non, pas vraiment.
Solo de tu bravura triunfo será igual a muerte. Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Brisa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Thomas Aquino, un grand voyageur qui fut le soigneur de la flotte particulière de pigeons voyageurs de Vitruve. Et les temps ont bien changé. Merci Thomas.
La pastille cardio-râleur, pigeon. Mettons au petit pois l'oiseau cher à Cypris. Plumez 3 ou 4 pigeons, épluchez-les, videz-les et remettez-leur le foie dans le corps. Retroussez-leur les pattes en dedans, laissez les ailerons, flambez-les, épluchez-les. Mettez un morceau de beurre dans une casserole, faites-les revenir et retirez-les. Vous aurez coupé du petit lard en gros dés et fait dessaler près d'une demi-heure. Passez-le dedans votre beurre, faites-lui prendre une belle couleur et goûtez-le. Mettez une bonne cuillerée à bouche de farine dans votre beurre. Faites un petit roux qu'il soit bien blond. Remettez-y votre petit lard et vos pigeons. Retournez-les dans votre roux, mouillez-les petit à petit avec du bouillon et mettez le tout à consistance de sauce. Assaisonnez-le de persil et de ciboule avec une demi-feuille de laurier, la moitié d'une gousse d'ail et un clou de girofle. Retirez votre casserole sur le bord du fourneau pour que vos pigeons mijotent au milieu de leur cuisson. Mettez un litre d'eau poids fin, laissez-les cuire, ayant soin de les remuer souvent. Leur cuisson achevée, goûtez-les et ajoutez du sel s'il en est besoin. Dégraissez-les et retirez-les pour faire réduire leur sauce si elle est trop longue. La réduction faite, dressez vos pigeons, masquez-les de leur ragoût de pois et de petit lard et servez.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Un petit dé à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vis-là, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans cigares. Une fois dans votre vie, vous quêtez pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur.